Séoul au jour le jour. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. Le président sud-coréen Lee Jae-myung a récemment effectué une tournée dans quatre pays d'Afrique et du Moyen-Orient à l'occasion du sommet des dirigeants du G20. Son épouse Kim Hye-kyung, qui l'accompagnait, a profité de cette opportunité pour promouvoir la cuisine coréenne. C'est le sujet du premier article de l'édition de ce mercredi. Aux Émirats arabes unis, la première dame a participé à un événement de promotion de la cuisine coréenne halal et a rencontré des personnalités influentes sur les réseaux sociaux spécialisées en K-food. Elle y a dégusté le premier bœuf coréen certifié halal, conforme aux normes de l'islam, et a encouragé le développement de la cuisine coréenne halal. Puis, en Égypte, elle a eu un moment de discussion et un déjeuner privé avec l'épouse du président égyptien et a présenté la gastronomie coréenne. Elle a exprimé son souhait d'avoir à l'avenir l'occasion de lui servir elle-même de la K-food halal. À son arrivée à Johannesburg, où le sommet du G20 s'est tenu, Kim Hye-kyung a assisté à un événement dédié à la rencontre culturelle culinaire entre la Corée du Sud et l'Afrique du Sud, organisé au Centre culturel coréen de la capitale sud-africaine. Elle a goûté différentes sauces fermentées, préparées et conservées sur place, telles que le doenjang, pâte de soja fermentée, le ganjang, sauce soja, et le gochujang, pâte de piment. Elle a expliqué que ces épices n'étaient pas de simples condiments, mais constituaient l'essence de la cuisine coréenne qui nécessite de la patience et de la minutie sur de longues périodes pour atteindre une saveur parfaite. Elle a ensuite montré aux chefs locaux comment préparer le doenjang jjigae, un ragoût à la pâte de soja fermentée, tout en échangeant sur la culture culinaire coréenne. De nombreuses structures de garde pour enfants existent à travers le pays. Parmi elles, la ville de Paju, dans le Gyeonggi, abrite une institution un peu particulière. C'est Joy House, un centre de garde qui accueille une trentaine d'enfants issus de familles multiculturelles africaines. Le quotidien Donghwa Ilbo a présenté l'histoire de sa directrice, Iinja. En 2016, alors qu'elle menait une action de partage de repas destinée aux personnes âgées qui vivent seules, elle a rencontré une femme enceinte originaire d'Afrique. À son contact, elle a appris les difficultés auxquelles étaient confrontées les futures mères africaines. Elle a alors décidé de leur venir en aide. Le nord de Paju est une zone où de nombreuses familles d'immigrés africains se sont installées. Après la restitution en 2007 d'un terrain occupé par une base militaire américaine, des locaux vacants y sont apparus. Des immigrés originaires de divers pays africains, notamment le Ghana, le Nigeria et l'Afrique du Sud, ont commencé à y vivre en raison du faible coût du logement. Selon le ministère de la Justice, le nombre de résidents africains enregistrés dans cette ville est passé d'environ 290 en 2021 à 330 en 2023. Les femmes enceintes africaines vivant à Paju devaient parcourir de longues distances jusqu'à Séoul pour bénéficier de soins médicaux gratuits. À chaque fois qu'une d'entre elles devait se rendre à l'hôpital pour une consultation ou un accouchement, la directrice les accompagnait elle-même en voiture. En voyant grandir les enfants nés de ses mères, elle a pris conscience de l'absence de structures et de personnel pour prendre soin d'eux. La plupart des étrangers d'origine africaine résidant dans la ville travaillent plus de 12 heures par jour. N'ayant personne à qui confier leurs enfants, certains parents les laissent chez des amies africaines enceintes avant de partir travailler. La directrice a alors loué une habitation collective pour aménager un espace d'accueil et commencer à s'occuper de ses enfants. C'est ainsi que Joy House a vu le jour. Ce centre fonctionne grâce au soutien d'entreprises membres de la Chambre de commerce et d'industrie de Paju, d'églises et de la communauté locale. En plus de India, 6 immigrés africains chargés de la garde d'enfants et 2 assistants sud-coréens y travaillent. Récemment, la mairie de la ville a signé un accord de coopération afin de fournir les repas aux enfants de Choi House. Eh bien, avant d'enchaîner avec le prochain élément, prenons une petite pause musicale. Voici « 같이 걸을까 » et « Si on marchait ensemble » de Ijok. 오늘도
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Pour cette édition de Séoul le jour de mercredi 26 novembre, vous êtes en compagnie de Ko Jang-sun. À Incheon, les jeunes peuvent obtenir un logement pour seulement 1000 won, soit 60 centimes d'euros. Les petits commerçants peuvent expédier leurs colis et les étudiants peuvent prendre leur petit déjeuner à ce tarif. De plus, les personnes à faible revenu peuvent assister à des matchs de football professionnels ou à des spectacles culturels pour cette somme. Tout cela est possible grâce aux politiques des 1000 won mises en place par la municipalité. Tout d'abord, dans le domaine du logement, la municipalité a mis à disposition cette année 1000 logements permettant de vivre en ne payant qu'un loyer journalier de 1000 won. Objectif, encourager les jeunes à s'installer dans la ville et soutenir la naissance et l'éducation des enfants des jeunes couples. En mars et mai dernier, 5600 foyers se sont portés candidats, entraînant une forte concurrence. Les résidents peuvent y habiter pendant 6 ans. Pour les transports, les citoyens d'Incheon peuvent se rendre sur les 25 îles à proximité pour 1500 won, le même prix d'un ticket de bus. Par exemple, le tarif normal pour le ferry Incheon l'île de Paengnyeong est de 70 000 won, soit 41 euros, mais les habitants de la ville et des îles ne paient que 1500 won. Les résidents d'autres villes et provinces, quant à eux, bénéficient d'une réduction de 70%. Les petits commerçants profitent également du bonheur à 1000 won. Pour réduire leurs coûts logistiques, la ville a mis en place le colis à 1000 won, dont le tarif est moins de la moitié des prix du marché. Pour ce faire, la ville a installé des centres de collecte dans les 60 stations de métro des lignes 1 et 2. Elle a aussi renforcé les effectifs à 154 personnes. Jusqu'à présent, plus de 200 entreprises ont signé un contrat et le volume de colis expédiés a dépassé 880 000. Selon la municipalité, ce service a entraîné une augmentation moyenne de 14% du chiffre d'affaires des petits commerçants. De plus, dans 10 universités de la région, un petit déjeuner à 1000 won est proposé. D'ici la fin de l'année, environ 236 000 étudiants pourront en bénéficier. Dans le domaine culturel, afin de promouvoir l'accès à la culture et aux arts pour les populations défavorisées, la ville offre également des billets pour des événements culturels à 1000 won, permettant d'assister à des spectacles artistiques, à des matchs de football ou d'utiliser le bus touristique. Incheon prévoit de continuer à étendre ses politiques de 1000 won avec, par exemple, le pressing à 1000 won pour laver les vêtements de travail des ouvriers, le camping à 1000 won pour les familles le week-end ou encore les frais de courtage immobilier à 1000 won. La série sud-coréenne intitulée en anglais « The Dream Life of Mr. Kim », soit « La vie rêvée de Monsieur Kim » en français, fait sensation parmi les hommes d'âge moyen. Bien que cette série adopte la forme d'un feuilleton familial, elle met en avant l'inquiétude du chef de famille. Le directeur Kim, dans la cinquantaine, possède un logement à Séoul et porte le titre de cadre dans une grande entreprise, ce qui peut être considéré comme une vie assez réussie dans la société sud-coréenne. Pourtant, derrière cette image se cache une réalité pesante. la peur de la retraite et la préoccupation permanente pour la subsistance de sa famille. En fait, la réalité est beaucoup plus rude que la fiction. Dans les grandes entreprises, les propositions de départ volontaire se succèdent comme un effet domino. Ce n'est plus une procédure qui se présente tranquillement après 55 ans. Dans certains secteurs comme l'informatique, les jeux vidéo ou la distribution, le profil des candidats au départ volontaire s'étend même jusqu'aux personnes dans la fin de la trentaine. Dernièrement, le renouvellement des générations est devenu marquant dans les ressources humaines des grandes entreprises. Les employés, quinquagénaires et sexagénaires quittent rapidement, tandis que les personnes nées dans les années 1970 accèdent aux postes de direction et celles nées dans les années 1980 deviennent le personnel opérationnel clé. Derrière ce phénomène se cachent deux facteurs majeurs. La stagnation économique et l'introduction des technologies avancées. Si le ralentissement économique se prolonge, les entreprises cherchent à réduire leurs coûts et à diminuer leurs effectifs. Par ailleurs, la diffusion de l'intelligence artificielle accélère encore plus le rythme des changements. En particulier, les Sud-Coréens dans la cinquantaine et la soixantaine se trouvent au cœur de cette transition structurelle. Les entreprises rajeunissent et les longues années d'expérience ne sont plus aussi valorisées qu'auparavant. De plus, l'intelligence artificielle remet en question les rôles existants. Pourtant, il serait dommage de laisser leurs expériences et leurs savoir-faire inexploités. À ce propos, les experts soulignent la nécessité de concevoir des politiques différenciées selon les secteurs et les types de postes. Il recommande également d'établir des systèmes de reconversion et de formation continue. Des arbres en bordure de rue, taillés en différentes formes, tels que des carrés, des cercles, des cœurs ou des champignons, apparaissent à travers le pays. Ces tailles en forme variée s'appellent la taille thématique. Contrairement à la taille classique, elle met davantage l'accent sur l'effet visuel. C'est la ville de Suwon dans le Gyeonggi qui l'a popularisée. Face à des plaintes concernant les branches qui poussaient de manière désordonnée et bloquaient les enseignes ou les feux de signalisation, la ville a pris des mesures en 2005. Elle a commencé à tailler les arbres en forme de carré en harmonie avec la forteresse de Suwon-hwasan. Cette initiative a suscité une réaction positive et a même fait connaître le site comme attraction touristique et plusieurs municipalités ont suivi cet exemple. Notamment, depuis juin, la ville de Cheongju a taillé les arbres près de la mairie en forme de cœur. Selon un responsable de la ville, comme les formes rondes ou carrées sont déjà présentes dans d'autres municipalités, la forme de cœur a été adoptée afin de se démarquer. Cette taille coûte 10 à 20% de plus, mais les citoyens l'accueillent favorablement. Avant que la taille thématique ne devienne populaire, il y a eu des controverses sur les arbres à pattes de poulet. Pour des raisons de coût et de sécurité, certaines municipalités avaient pratiqué une taille excessive, ce qui éliminait l'ombre et rendait l'aspect des arbres inesthétique, voire disgracieux. Selon les directives de l'Association internationale de gestion des arbres, la taille ne doit pas dépasser 25% de l'ensemble des branches. Certains spécialistes mettent également en garde contre les effets secondaires de la taille thématique. Ils soulignent que couper des branches signifie enlever des tissus vivants, ce qui peut raccourcir la durée de vie des arbres et leur causer un stress important. Il est donc préférable, selon eux, de privilégier leurs fonctions essentielles comme fournir de l'ombre et maintenir l'humidité plutôt que de chercher uniquement à créer des formes esthétiques. Et voilà, c'est le moment de retrouver l'invité de mercredi présenté par Kim Hong-joo. Avant de le rejoindre, je vous présente des commentaires de nos auditeurs. Ce vendredi, nous vous proposons de réécouter l'émission spéciale « Merci, c'est grâce à vous » réalisée à l'occasion de notre 70e anniversaire. À ce propos, Abdallah Bouch, Shubendu Paul et Madame Chandra Sagour nous ont envoyé des messages de félicitations. L'anniversaire de KBS World Radio est le 15 août, mais merci quand même. Alors, avant de passer à la suite, écoutons une chanson de Kadogaden, Namu, Arbre.
Chaque mercredi, vous êtes invité à découvrir une personnalité qui œuvre pour les échanges entre la Corée et le monde francophone. Vous êtes bien au 13 boulevard Yoi et vous avez rendez-vous avec Kim Hong-joo.
Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans la seconde partie de notre entretien avec Christophe Diez et Jeanne Dubresson de KFTV. Place maintenant à leur nouveau défi. Kul, une plateforme OTT communautaire pensée pour rapprocher la Corée et l'Europe. If it's Kul, it's cool. Tel est le mot d'ordre. Christophe, qu'est-ce qui vous a poussé à créer Kul, justement? En quoi cette plateforme va-t-elle prolonger ou transformer l'esprit initial de KFTV?
Au début, KFTV, qui veut dire Korean French Television, on était vraiment sur le côté la France et la Corée, ou les pays francophones d'Europe qui parlent français et la Corée. Et là, en venant grâce au programme K-Startup Grand Challenge, on s'est rendu compte quand même, bon, on savait un petit peu que la Liu prend des places dans tous les pays du monde. Donc on s'est dit qu'il fallait peut-être changer de nom. Alors on n'allait pas faire KETV, Korean Europe TV, ça faisait terrible. Et on voulait aussi créer tout un personnage, en fait, autour du mot « Kul ». Et on a fait des brainstorming à plusieurs et on a sorti plein de noms. Et « Kul » est arrivé, qui est le nom de la mandarine de l'île de Jeju. Et on va créer tout un personnage là-dessus. Donc, on voulait changer un peu le nom pour emmener une autre vision qu'on avait de la culture coréenne et surtout de la montrer à plus de monde encore, même si il y a déjà plein de plateformes qui le font. Mais on voulait, nous, apporter d'autres choses et le montrer à l'Europe et au monde entier, de ne pas rester sur juste la France.
Quel type de contenu vous envisagez de proposer?
Alors, donc du coup, on a nos contenus d'avant qui étaient les films, les documentaires, les dramas, les animations. Maintenant, comme on développe aussi une application en même temps que le site, on va pouvoir avoir des formats verticaux, donc plutôt des short dramas qui sont en vogue en ce moment en Asie et qui arrivent en Europe grâce à nous, j'espère. Et ensuite, on va aussi avoir des choses un peu plus de genre des lives, par exemple des concerts live, etc. Nous aussi, on voudrait faire participer la communauté sur l'application, donc les faire voter pour des contenus, par exemple, le faire un Kul Awards, maybe. ce genre de choses. Donc, un peu plus de diversité et d'options communautaires, je pense. La raison principale pour laquelle on est venu en Corée, c'est quand même de découvrir des plus petits créateurs, des plus petits petites boîtes de prod. Donc on va voir les gens à les sorties d'école, on va pouvoir leur faire faire des choses.
Votre objectif est ambitieux, 500 000 abonnés payants, 10 millions d'inscrits selon vous et 1 million de visiteurs quotidiens d'ici 5 ans. Comment comptez-vous atteindre ces chiffres?
Je pense que rien n'est impossible. Par contre, nous, on sait que en face de nous, il y a des petites structures comme Netflix, Disney, Viki, Cocoa. Il y a ces petites sociétés qui nous gênent un petit peu. Donc, on sait très bien que la concurrence est très très compliquée. Nous, notre but, c'est d'avoir vraiment ce côté communautaire. C'est-à-dire que j'ai un abonnement Disney, Netflix, j'ai les abonnements partout. Moi, ce que je fais, j'y vais, j'appuie sur lecture, je regarde, j'éteins et je me couche. Des fois, un peu trop tard à cause d'un drama. Merci, les Coréens. Nous, notre but, c'est de dire aux gens, OK, t'appuies sur lecture, t'appuies sur pause, mais t'as d'autres gens autour de toi qui peuvent aimer la Corée, que tu ne connais pas et avec qui tu peux avoir du partage, tu peux parler, tu peux communiquer, tu peux échanger, etc. Et donc, nous, on veut apporter beaucoup plus de choses de ce côté-là, d'avoir vraiment quelque chose où tu vas réunir les gens. Moi, je parle pas coréen, je parle pas anglais, j'ai pas du mal à aller vers les gens quand même. Mais je sais que parfois, il y a des gens qui aiment la Corée, mais qui restent chez eux, qui ont du mal à aller vers les autres. Et les buts, c'est leur dire, voilà, échangeons entre nous, faisons des choses. Après, on veut aider les gens aussi à voyager. Vous venez en Corée, qu'est-ce qui est bien à aller voir, etc. De permettre à la communauté de te montrer ce qu'il y a à voir, c'est-à-dire les lieux de tournage et autres, ou de radio, et etc. Donc, vraiment un truc très communautaire pour arriver à ces 500 000 abonnés payants et pas simplement juste mettre des dramas ou des TV shows ou de la comédie musicale ou autre. Je pense qu'il y a tout un travail à faire là-dessus pour amener cette communauté. C'est un chiffre. Est-ce qu'on va y arriver? On va faire tout pour y arriver. Et faut que les gens viennent s'abonner.
Et après aussi, je veux juste rajouter, sur notre nouvelle plateforme, on a des abonnements, mais on aura aussi des moyens d'acheter vidéo par vidéo, qui est peut-être plus simple pour les jeunes qui n'ont pas envie de forcément de s'abonner à trop de choses.
VOD, AVOD, voilà. Donc tous les systèmes.
Un peu plus de diversification pour payer.
Parce que c'est compliqué pour les gens maintenant de s'abonner à toutes les plateformes. Il arrive à un moment où il faut un budget pour toutes les plateformes, donc c'est compliqué. C'est donc le but, c'est d'apporter un plus. Je pense que les seules plateformes qui vont réussir, c'est ceux qui ont beaucoup, beaucoup d'argent et qui n'ont pas de soucis à faire plein de productions. Et les petites, ça va être celles qui vont proposer des choses beaucoup plus communautaires et qui vont rapprocher les gens pour venir à regarder
la
plateforme.
C'est la question d'après.
Justement, vous connaissez très bien le public francophone et européen. Quelles sont, selon vous, ses attentes vis-à-vis de la K-culture aujourd'hui?
Oui, parce que moi, quand j'ai commencé la K-culture, c'était quoi, 2013? Et c'était quand il y avait Big Bang et Psy, mais c'était vraiment le début en Europe de la K-culture. Et en fait, les gens, c'était le moment de la découverte. Maintenant, les gens, ils ont fini de découvrir. Et si on regarde, moi, j'avais regardé les chiffres de la FKCCI ou je ne sais plus, de l'ambassade, qui disait que le nombre d'étudiants d'échanges ou quoi qui viennent en Corée a vraiment c'est une courbe exponentielle ces dernières années quoi. Les gens qui passent le topic l'examen de coréen d'apprentissage du coréen a aussi boomé énormément. Donc là maintenant les Français et les Européens, ils veulent venir en Corée, ils veulent vivre l'expérience du drama ou l'expérience, en tout cas ils veulent plus juste être à distance. Donc il y a vraiment un truc communautaire à construire et à faire venir les gens en Corée. C'est pour ça que nous on essaie de proposer quelque chose qui leur permettrait d'avoir des points quand ils découvrent des endroits en Corée, qui leur permettrait de faire des rencontres en Corée, de se parler entre eux, de découvrir des endroits, par exemple des sets de films, ce genre de choses, parce qu'on sait qu'ils veulent vraiment expérimenter le truc physiquement quoi. Donc ça a changé, je trouve, par rapport à avant.
Et ce qui est bien, je dirais, c'est que la Corée a réussi à ce que les gens aiment déjà les dramas et la K-pop. Et après ça, c'est que les gens, en fait, après avoir aimé ça, vont aimer la culture, vont essayer de se renseigner sur le pays. Qu'est-ce que je peux apprendre du pays? Comment le pays est né? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays? C'est-à-dire qu'on ne va pas juste regarder un drama, éteindre et se coucher, c'est tout. On veut en savoir un peu plus sur le pays ou la nourriture. On aime beaucoup la nourriture. Qu'est-ce qu'on va vouloir goûter? Donc, c'est ça qui est bien. Et notre but, voilà, c'est d'apporter ce petit plus. Qu'est-ce qu'il y a après le drama? Qu'est-ce qu'il y a après la K-pop? Il y a la Corée, la vraie Corée. Ouais.
Quels sont les plus grands défis que vous rencontrez aujourd'hui, à la fois en Corée et en Europe, dans ce projet de plateforme culturelle indépendante?
Le plus grand défi que, comme beaucoup d'entreprises, je dirais, peu importe ce que c'est les finances. C'est toujours très compliqué. On a participé au BCW il y a quelques semaines et donc on a revu KBS, NBC et d'autres sociétés. Et c'est vrai que c'est comme tous, hein, on vend des programmes, il faut de l'argent pour les acheter, après il faut les diffuser. Donc c'est un coût qui est quand même très gros, qui est très difficile pour nous parce que on est une petite plateforme, il n'y a aucune grosse entreprise qui investit chez nous et qui est chez nous. Donc c'est le plus gros des soucis. Et après, c'est la technologie. Trouver les bons développeurs pour nous aider à créer cette nouvelle plateforme, mettre en place les idées qu'on a, parce que la problématique, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup trop d'idées.
Et surtout, Christophe et moi, on est des créatifs, donc nous, on n'a pas forcément le côté technologique, développer une plateforme, etc., c'est pas forcément notre plus gros point fort.
Non.
Donc, c'est qu'il faut trouver des partenaires qui puissent faire ça avec nous.
Alors, et puis, ENFP, donc on est un peu...
On est des ENFP, ouais. Je crois que on dit aussi, voilà.
Donc, très créatif. Et
on n'est pas forcément dans la techno, quoi, donc c'est vrai qu'on a besoin de partenaires qui puissent nous soutenir là-dessus.
Donc là, nous, on a fait rentrer des associés en tant que développeurs, parce qu'on ne pouvait pas les payer. Donc, on leur a proposé de rentrer dans la boîte avec des parts. Et là, on est en train d'en chercher 3 ou 4 autres. Donc, s'il y en a qui écoutent et qui sont développeurs et qui veulent rentrer chez KFTV, on offre des parts en contrepartie d'un travail à faire. Et pareil, hein, s'il y a des investisseurs qui veulent investir, donc on est à la recherche d'investisseurs pour nous aider à grossir, à faire grossir KFTV et Kyul, et donc à faire grossir la culture coréenne à travers le monde.
Pour conclure, Jeanne et Christophe, si vous deviez adresser un message aux spectateurs européens passionnés de culture coréenne, que serait-il ?
Eh ben, c'est un peu ce que disait Christophe tout à l'heure, mais moi je suis d'accord qu'il faut, si on aime la culture coréenne, il faut oser aller voir d'autres choses, aller chercher des choses qui nous plaisent, aller voir plus loin, parce que la culture coréenne est très riche et variée, et pas juste s'arrêter au drama, etc. Mais si vous voulez vraiment venir en Corée, venez en Corée, c'est très facile maintenant, c'est très ouvert. Enfin, Christophe ne parle pas coréen, mais il se débrouille très très bien en Corée. Et faut oser y aller, quoi. Et regardez, nous on a osé venir et on en est là, donc c'est que c'est possible.
Voilà. Et moi, je vais dire un mot en coréen, je vais peut-être très très mal le dire, c'est Shijagi Panida, qui veut dire commencer, c'est déjà la moitié du travail fait. Donc moi, là, je m'adresserai plus à des entrepreneurs. N'ayez pas peur de créer quoi que ce soit. C'est-à-dire que vous voulez faire, parce qu'on voit beaucoup de sites de cosmétiques qui sont en train de se créer, et il y en a peut-être qui disent, ouais, mais il y en a déjà trop, si je fais ça, je vais pas y arriver. Fais-le, peu importe. Peu importe ce qu'il y a à côté de toi, nous on le fait alors qu'il y a Netflix et Disney, c'est des gros. Donc ose faire les choses et tu verras qu'avec la Corée, il y a beaucoup de choses que tu peux mettre en place. Et même si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, au moins tu auras tenté quelque chose. Et la Corée te permet de faire ça. Pour moi, la Corée, c'est un peu les États-Unis des années 80-90 où il y avait le rêve américain que tout le monde voulait aller aux États-Unis parce qu'on voulait devenir telle ou telle chose. Et moi, je trouve qu'il y a un rêve avec la Corée qui est magnifique et lequel on peut faire beaucoup de choses. Alors, oui, ça sera pas simple, mais dans tous les pays du monde, c'est pas simple. Faut arrêter, parce que j'entends souvent des gens, ouais, mais la Corée, c'est difficile, ils parlent pas trop anglais, mais dans tous les pays du monde, c'est difficile.
Les Français ne parlent pas trop anglais non plus. Hein.
Tu veux créer quelque chose, même dans ton propre pays, la France, ça sera difficile. Donc ne trouve pas des excuses en disant, ah, mais bon, vas-y, fais, fonce, et tu verras que le pays est magnifique et on mange très bien.
Oui. Et nous, en tant que CUL, on vous accompagnera dans votre découverte de la Corée.
On peut aider. On peut aider en plus.
Merci pour cet encouragement et merci infiniment à Christophe Diez et Jeanne Dubresson pour ce partage sincère et inspirant.
Merci à vous et merci à notre équipe aussi.
Oui, voilà, je voulais rajouter parce qu'on est plusieurs. Il y a Guillaume, Thierry, Damien,
Arjuna, Thierry, tu l'as dit, Damien, on a tout mis. C'est bon, on a tout mis.
Et tous les autres. Et merci aux abonnés qui nous soutiennent.
Merci beaucoup.
Merci.
Voilà, c'est la fin de cette édition de Séoul au jour le jour. C'était Koh Jang-seon avec Oh Ha-young à la réalisation. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très bonne soirée.